Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Radio Libellule.
Les ondes positives.
Bonjour à vous, bonjour tout le monde. On est mercredi et c'est donc l'émission Radio Libellule, les ondes positives. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver en ce beau mercredi. Et on va commencer tout de suite par répondre à l'énigme de fin d'émission de la semaine dernière. Alors rappelez-vous, je vous avais demandé quelle est la particularité du mot oiseau. Alors je ne sais pas si vous avez trouvé, en tout cas je vais vous donner la réponse tout de suite. Eh bien le mot oiseau, l'indice, c'était attention à sa prononciation. Eh bien finalement cet indice, c'était presque la réponse, puisque le mot oiseau, lorsqu'on le prononce, on ne prononce aucune de ses lettres. Voyez-vous, O-I, ça fait oie. E-A-U à la fin, ça fait O, et le S au milieu se prononce Z, oiseau. Donc finalement, on ne prononce aucune de ces lettres. J'espère que la prochaine fois que vous entendrez un petit oiseau chanter, vous y penserez. J'espère même, ça me ferait plaisir, que vous allez le partager avec des personnes qui n'auraient pas cette petite anecdote en tête.
Radio Libellule.
Alors, en début d'émission, vous le savez, on fait habituellement, parce que j'aime ça et parce que je suis gourmand, une chronique cuisine. La semaine dernière, on avait appris à faire des crêpes avec Raymond Oliver, des crêpes très alcoolisées, je vous le rappelle. Mais aujourd'hui, j'ai un peu modifié ce début d'émission, tout simplement parce que nous sommes le mercredi 1er avril. Et qui dit mercredi 1er avril dit poisson d'avril. Le poisson d'avril, ça consiste à faire des blagues, mais aussi, attention, tradition qui se perpétue depuis des années et des années, à coller un petit poisson que l'on aurait découpé dans le papier et posé sur le dos d'un ami, d'un camarade, d'un collègue, etc. Alors pour réussir ce petit poisson d'avril, eh bien Robert Lamoureux nous fait un petit tuto. On écoute tout de suite.
En ce qui concerne l'emploi de l'objet, je recommanderais tout spécialement, aux débutants en tout cas, un papier léger. Aux évolués, je conseillerais formellement le carton dur. Le carton dur présente à la fois l'avantage de ne pas se froisser à la pluie, d'y résister plus longuement, et comme le disait justement de la Bernagotte, en 1871, il avait lui-même préconisé l'emploi du carton fort. Bien entendu, l'important est de suivre le tracé. C'est une méthode à laquelle on ne se plie pas facilement. Les gens inventent, imaginent, en réalité, la vérité, c'est qu'il faut tracer d'abord, vous comprenez. Alors, vous opérez d'abord le tracé. Voilà. Alors, libre cours à l'imagination, n'est-ce pas? Ensuite, avec des ciseaux, et pas n'importe lesquels, pas ceux dont on se sert pour, généralement pour couper la queue des poissons. Ils sont assez stupides et qui, finalement, ne font qu'égratigner l'objet. Vous découpez suivant le tracé initial. Voyez-vous, c'est une opération non pas difficile, mais qui nécessite tout de même une certaine application. Voilà. Parce qu'il y a des sujets comme ça, voyez-vous, qu'on traite par-dessus la jambe, mais finalement, les traditions s'égarent, s'oublient, disparaissent, et puis un beau jour, on se retrouve sans rien, n'est-ce pas? Voici. Voilà, alors voilà ce que j'appellerais le poisson d'avril qui fait son effet. Bien entendu, si vous êtes galant, messieurs, vous aurez soin de le découper en soie brochée pour madame, quand vous lui accrocherez dans le dos, et à la place de l'œil, vous mettez un bijou. C'est assez charmant. Maintenant, si vous voulez vraiment faire le poisson d'avril, alors je vous conseille le contreplaqué, du contreplaqué qu'on peut se procurer assez facilement dans tous les magasins de menuiserie et bénisterie, du contreplaqué de 8. Prenez du 8. Le 8 tient l'usage. Et alors, si vous voulez vraiment faire un effet, pas au mois d'avril, mais en novembre. C'est
amusant. Et donc c'était Robert Lamoureux et son tuto pour réussir un bon poisson d'avril. Alors comme il le disait, son but en rappelant ses bases finalement, c'est pour ne pas que la tradition s'égare. Alors je compte sur vous, chez vous aujourd'hui, ensemble ou même seul, essayer de faire un poisson d'avril. Et bien c'est le but, c'est de se marrer et le but c'est de rigoler tous ensemble en ce beau mercredi du 1er avril. Si vous voulez m'envoyer des photos de vos plus beaux poissons avec plein de décorations, ça ce sera bien sûr un grand plaisir. Alors cette première partie d'émission, vous avez vu, elle n'est pas comme d'habitude, on n'a pas eu de cuisine, on a eu un tuto 1er avril, et il y a encore une autre nouveauté, on a Emma qui nous a préparé une belle chronique sur l'odeur, elle va nous lire un texte d'Émile Zola, et vous allez voir, c'est une vraie expérience auditive, c'est un voyage par l'odeur, je vous laisse vous plonger et essayer de ressentir les odeurs qui sont lues par ce texte d'Émile Zola.
Radio Libellule.
Les ondes positives. Extrait tiré du roman Le ventre de Paris, écrit par Émile Zola et publié en 1873. Ils humaient les odeurs de Paris. Le nez en l'air, ils auraient reconnu chaque coin, les yeux fermés, rien qu'aux haleines liquoreuses sortant des marchands de vin, au souffle chaud des boulangeries et des pâtisseries, aux étalages fades des fruitières. Ils préféraient encore les tronçons du vieux Paris restés debout, les rues de la poterie et de la lingerie, avec leurs maisons ventrues, leurs boutiques de beurre, d'œufs et de fromage, les rues de la ferronnerie et de l'aiguillerie, les belles rues d'autrefois, aux étroits magasins obscurs, surtout la rue Courtalon, une ruelle noire, sordide, qui va de la place Sainte-Opportune à la rue Saint-Denis, trouée d'allées puantes, au fond desquelles ils avaient polissonné étant plus jeunes. Rue Saint-Denis, ils entraient dans la gourmandise. Ils souriaient aux pommes tapées, au bois de réglisse, aux pruneaux, au sucre candi des épiciers et des droguistes. Leur flânerie aboutissait chaque fois à des idées de bonnes choses, à des envies de manger, les étalages des yeux. Le quartier était pour eux une grande table toujours servie, un dessert éternel dans lequel ils auraient bien voulu allonger les doigts. Ils visitaient à peine un instant l'autre pâté de massure branlante, les rues Pirouette, de Mondétour, de la petite truanderie, de la grande truanderie, intéressés médiocrement par les dépôts d'escargots, les marchands d'herbes cuites, les bouges de trépied et des liquoristes. Il y avait cependant, rue de la grande truanderie, une fabrique de savon, très douce, au milieu des puanteurs voisines, qui arrêtait Marjolin, attendant que quelqu'un entrât ou sortît pour recevoir au visage l'haleine de la porte. Et il revenait vite, rue Pierre Lescot et rue Rambuteau. Cadine adorait les salaisons. Elle restait en admiration devant les paquets de harengs, les barils d'anchois et de carpes, les tonneaux de cornichons et d'olives ou les cuillers de bois trempés. L'odeur du vinaigre la grattait délicieusement la gorge. La prêtait des morues roulées, des saumons fumés, des lards et des jambons, la pointe aigrelette des corbeilles de citron lui mettait au bord des lèvres un petit bout de langue humide d'appétit. Et elle aimait aussi avoir les tas de boîtes de sardines qui font, au milieu des sacs et des caisses, des colonnes ouvragées de métal. Rue Montorgueil, rue Montmartre, il y avait encore de bien belles épiceries, des restaurants dont les soupiraux sentent bon, des étalages de volailles et de gibier très réjouissants, des marchands de conserves, à la porte desquels des barriques défoncées débordées d'une choucroute jaune, déchiquetées comme de la vieille guipure. Mais, rue Coquillère, il s'oubliait dans l'odeur des truffes. Là se trouve un grand magasin de comestibles qui souffle jusque sur le trottoir un tel parfum que Cadine et Marjolin, fermés les yeux, s'imaginant d'avaler des choses exquises. Claude était troublé. Il disait que cela le creusait. Il allait revoir la halle au blé, par la rue Aublin, étudiant les marchands de deux salades, sous les portes, et les faïences communes, étalées sur les trottoirs, laissant les deux brutes achever leur flânerie dans ce fumet de truffes, le fumet le plus aigu du quartier.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille.
Et une belle musique pour finir cette chronique Paris s'éveille de Jacques Dutronc. Alors là, c'était un vrai voyage avec les odeurs. Je ne sais pas si vous avez réussi à ressentir des choses. Personnellement, il y a une odeur qui vraiment m'est venue, c'est quand elle parle de la savonnerie. J'ai vraiment ressenti cette odeur de savon. J'espère que vous aussi, il y a des odeurs comme ça qui vous sont revenues. Alors, il y a des odeurs comme ça qu'on garde en nous, qu'on retient, mais il y a aussi des chansons qui nous restent en tête, des petits airs, qu'une fois qu'on les a entendus, eh bien, elles sont là dans notre tête et pendant des semaines, on les entend. Eh bien, je suis désolé, mais c'est ce que je vais vous faire écouter tout de suite avec une petite page de pub qui, je pense, va vous rester en tête un bon petit moment.
Et voilà de la purée mousseline. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ben, je vais en manger tellement que je serai grand comme un géant. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend.
Purée mousseline, on en reprend.
Et oui, purée mousseline, on en reprend. Alors, elle met quand même en joie cette musique. Hein. J'espère que vous allez la fredonner et la voir en tête. N'hésitez pas à chanter. Allez, on se lâche. On chante ces petits airs de purée mousseline. Alors, on va passer à un premier extrait musical. Mais on a décidé de faire participer nos auditeurs et on a eu Gilbert au téléphone, très gentil monsieur, avec qui j'ai d'ailleurs discuté très longtemps. On a parlé plus d'une demi-heure. Mais il m'a aussi parlé un moment de musique. Je lui ai demandé alors la musique qu'il aime entendre sur cette prochaine émission. Je vous mets un petit extrait de notre discussion et on lance la musique choisie par Gilbert.
Radio Libellule.
Les ondes positives.
Alors, il y a une musique que je trouve extraordinaire qui est arrivée un peu plus tard. C'est la musique du film Il était une fois dans l'Ouest.
D'accord, ok. Ouais.
Ah, elle est magnifique.
Ah ouais. Alors, je connais le film, mais j'ai pas la musique en tête. Du coup, je ferai ma petite recherche après.
La musique est fantastique. C'est un Italien, c'est Ennio Morricone. C'est magnifique, magnifique.
Donc, c'est la musique originale donc, du film Il était une fois dans l'Ouest.
Le film Il était une fois dans l'Ouest.
D'accord.
Elle est très, très, très belle. Hein. Et elle donne justement une couleur au film qui est extraordinaire. C'est ce qui a fait la. Vraiment le succès, quoi. Hein. Ça a contribué grandement au succès. Hein.
Thank you.
C'était donc le choix de Gilbert cette semaine, c'était la musique du film « Il était une fois dans l'Ouest », film de Sergio Leone qui date de 1968 et cette musique, on l'appelle souvent « L'homme à l'harmonica ». On remercie Gilbert pour cette super idée, hein. Franchement ça rappelle je pense beaucoup de souvenirs puisque c'est un film iconique. Et c'est un film que l'on connaît tous, hein. Il a traversé toutes les générations, ça reste dans le patrimoine des films un des plus importants. C'est l'heure de retrouver Dominique et Bernard qui nous parlent chaque semaine de leurs souvenirs de la belle époque. On va les écouter tout de suite. Je vous préviens juste qu'en ce mercredi 1er avril, il y a peut-être, je dis ça, je dis rien, dans un de leurs souvenirs quelque chose qui est une blague. Je vous laisse avec ça, je vous laisse écouter et on voit après si effectivement il y avait une blague.
La belle époque par Bernard et Dominique.
À l'époque, les voitures étaient des objets rares.
À l'époque, on démarrait aussi des voitures à la manivelle.
À l'époque, les pompes à essence étaient actionnées à la main.
À l'époque, très peu de femmes conduisaient.
À l'époque, on se déplaçait en mobylette.
À l'époque des années 50, la France relance son industrie automobile.
À l'époque, à défaut d'un off, on retape les vieux tacos.
À l'époque, ça roule et ça pétarade.
À l'époque, la petite reine, c'était la bicyclette.
À l'époque, on circulait encore en train à vapeur.
À l'époque, les faubourgs et villages avaient leurs petits commerces.
À l'époque, les commerçants font aussi des tournées dans les communes.
À l'époque, il y avait une machine à coudre dans chaque foyer.
À l'époque, les couturières confectionnaient à domicile les vêtements de la famille.
À l'époque, les mamies raccommodaient les chaussettes et tricotaient les écharpes.
À l'époque, on avait les habits de travail et la tenue de sortie.
À l'époque, pour les ouvriers et cultivateurs, c'était les cottes bleues.
À l'époque, pour les employés de commerce, c'était la blouse.
À l'époque, pour cuisiner, les mères avaient un tablier de devant.
À l'époque, nos mémés étaient en robe tablier à fleurs ou à carreaux.
À l'époque, les semaines de travail étaient longues.
À l'époque, le dimanche, c'était le jour de repos.
À l'époque, le dimanche était très festif.
À l'époque, on s'habillait pour sortir. C'était les habits du dimanche.
À l'époque, c'était le bal dans les salles de fête communales.
À l'époque, c'était aussi le cinéma de quartier.
À l'époque, c'était les retrouvailles au bistrot du coin, après la messe.
À l'époque, dimanche égale friandise pour les enfants, carambar et pchit.
À l'époque, le dimanche, ceux qui avaient la télé organisaient les écoutes collectives.
À l'époque, le 1er avril, c'était les poissons accrochés dans le dos.
À l'époque, le 1er avril, on offrait du caviar à nos voisins.
À l'époque, c'était la journée des calembours.
Et il y avait effectivement un poisson d'avril, une petite blague, quand Bernard parle du caviar. Eh bien non, ça c'est faux, vous avez, j'espère, entendu à la fin de cette chronique, il parle de caviar. Non, ça c'est un souvenir qui a été inventé. Alors en parlant de belle époque, il y a quelque chose qui a intéressé Elisa aujourd'hui. Donc Elisa, vous le savez, chaque semaine elle nous fait des chroniques sur l'évolution. Elle nous avait fait la semaine dernière l'évolution des genres musicaux. Eh bien elle s'est intéressée cette fois, c'est très original et j'aime beaucoup, au style capillaire de 1940 à nos jours. Alors comment est-ce qu'on se coiffait? Comment les hommes portaient la moustache, la barbe? Quelles étaient les coupes à la mode? Comment cela a évolué? C'est Elisa qui a analysé ça et on l'écoute.
Radio Libellule.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des modes capillaires de 1940 à aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec 1940. Les femmes sont en quête de liberté et d'indépendance. Les looks sont plus glamour et les coiffures plus modernes. Deux styles ressortent le plus. D'un côté les boucles, avec la mode des permanentes et des boucles en cascade. De l'autre, le style pin-up, avec la frange roulée. Une sorte de chignon banane porté sur le dessus de la tête et très popularisé par l'actrice Katharine Hepburn, mais aussi le turban qui consistait à entourer son chignon d'un bandeau. Côté homme, la raie est sur le côté et les cheveux sont plaqués malgré un léger volume sur le dessus du crâne. La moustache, quant à elle, est très fine voire inexistante. Dans les années 50, les boucles sont encore en vogue, mais d'autres styles apparaissent comme le chignon banane chic et glamour. Les années 50, c'est aussi la mode de la coupe à la garçon ou coupe pixie, popularisée par l'actrice Audrey Hepburn. Finalement, le blond platine est tendance. Du côté des hommes, les cheveux ont un peu plus de volume que dans les années 40 et la raie disparaît. L'icône capillaire est Elvis Presley avec son brushing mythique. On aime porter aussi une mèche légère sur le front. Dans les années 60, côté femme, la coupe à la garçon reste populaire, mais est cette fois bien plus lisse et structurée avec le plaqué court ou coupe boyish, qui consistait à plaquer ses cheveux courts avec de la cire. D'un autre côté, le chignon choucroute, rendu célèbre par Brigitte Bardot, est tendance. À la fin des années 60, le mouvement hippie est à son apogée, et la mode est aux cheveux longs et raides, ornés de bandeaux et foulards multicolores. Finalement, l'accessoire iconique des années 60, c'est le nœud, à toutes ses sauces, qui fut porté par grand nombre d'actrices. Côté homme, c'est la mode des roues-flaquettes, et les cheveux se portent longs comme ça a été la mode durant le mouvement hippie. Les années 60, c'est aussi le grand retour de la barbe, qui est longue et peu dessinée. Pour les femmes, les 70s marquent le grand retour des boucles et du volume. Premièrement avec le brushing pointe vers l'extérieur, popularisé par l'actrice mythique de la série Drôle de Dame, Farrah Fawcett. Mais les années 70, c'est aussi les boucles sexy, les cheveux sont longs ou mi-longs, mais surtout aériens. Enfin, la coupe afro rencontre un grand succès. Pour les hommes, les cheveux et la barbe longs sont toujours en vogue, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de volume côté cheveux et une moustache plus travaillée. Les années 80, c'est la décennie rock, et ça se sent côté coiffure. Bonnie Tyler popularise la coupe mulet, on se crêpe les cheveux à l'image de Madonna, et la chanteuse de Desireless rend célèbre les cheveux en brosse. Mais les années 80, c'est aussi la coupe au bol portée par certaines stars, comme Mireille Mathieu. Chez les hommes, la coupe mulet et les cheveux en brosse, comme la coupe au bol, sont aussi très tendances. En fait, on aime toutes les coiffures avec beaucoup de volume. La moustache et la barbe perdent du terrain et deviennent quasi inexistantes. Dans les années 90, côté femme, on aime les cheveux lisses et fins. On aime aussi les cheveux courts à l'image du carré de Céline Dion. Mais côté jeunesse, le look grunge est largement adopté avec ses tresses brésiliennes et ses cheveux en bataille. L'accessoire indispensable durant cette décennie, c'est le chouchou, de préférence gros et coloré. Chez les hommes, c'est le grand retour des cheveux courts, mais avec du volume, et fait coiffer décoiffer. Le visage est dépourvu de barbe ou de moustache. Les années 2000, c'est les années du renouveau capillaire pour les femmes. De nombreuses coupes apparaissent, comme le coiffé décoiffé, cheveux plaqués à l'avant et en bataille à l'arrière, et fait sortie du lit. Le half-hawk est aussi tendance. Cette coupe consiste à se raser un côté du crâne et garder le reste des cheveux longs. Dans les années 2000, on aime aussi le carré plongeant et la coupe bohème avec ses foulards et ses tresses. C'est aussi la décennie de la coloration. Les cheveux sont méchés, balayés, dans des couleurs neutres comme le blond ou le brun, mais aussi dans le flashy à coups de bleu et de rose. Côté homme, les cheveux courts continuent leur ascension. Les coupes masculines sont plus structurées et c'est la mode des décolorations et des mèches. Les produits tels que le gel et la cire sont de nouveau très utilisés pour permettre le maintien des cheveux. La barbe de quelques jours est très tendance. Dans les années 2010, côté femme, les colorations continuent leur ascension avec le tie and dye. Cette mode consiste à garder sa couleur naturelle aux racines et faire un dégradé vers une autre couleur, souvent du blond, vers les pointes. La coupe à la garçon refait surface, bien que les cheveux longs restent très appréciés. Chez les hommes, on apprécie les cheveux très courts, voire rasés sur les côtés, et plus longs, raides ou bouclés sur le dessus. Les années 2010, c'est aussi la mode hipster, avec ses cheveux longs souvent attachés en chignon, et sa barbe longue elle aussi est très soignée. Nous pouvons donc nous rendre compte qu'à partir des années 2000, il n'y a plus ce phénomène d'une mode pour une décennie, mais une pluralité de styles et de modes toujours plus différentes les uns des autres. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.
Et c'était donc une belle chronique par Elisa. Donc elle a fait cette fois l'évolution des styles capillaires. C'est très original et je pense qu'on a appris plein de choses. On s'est sûrement aussi reconnu dans différents styles. Moi, je sais que j'aime beaucoup et actuellement, c'est ce que j'ai, les cheveux longs et le bandeau à l'époque hippie. Elle en a parlé et ça, je trouve ça super. L'été, les cheveux un peu longs, un petit bandeau, des petites lunettes de soleil et là, on est bien et on a le smile, quoi. On est heureux et on sourit. Alors moi, je vais vous parler de Maëlle. Alors Maëlle, elle a, elle, niveau style capillaire, des longs cheveux châtains, parfois lisses, parfois ondulés. Maëlle, si vous ne la connaissez pas, eh bien elle a gagné The Voice il y a quelques années et elle a sorti un album fin 2019. Alors Maëlle, pour ceux qui me connaissent, eh bien je l'adore tout particulièrement, j'adore sa chanson. Elle a une très jolie voix et vraiment, moi je suis tombé amoureux de Maëlle en écoutant son album. Donc c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous faire découvrir une de ses musiques, que bah, c'est ma préférée en fait. Ça s'appelle « Sur un coup de tête » et c'est par Maëlle.
J'ai pris un verre d'Apollinaire au fond de l'amphi avant-hier. Un double calligramme sans glace, un cocktail de peur qui s'efface. Sur mon ardoise, la craie se fâche, elle raye ma vie en anti-sèche. Une goutte de blanc sur mon errance, je colle la page de mon enfance. J'ose, j'ose. Sur un coup de tête, une gueule de joie, j'écris, je chante à l'encre de mes envies. Sur un coup de tête, une gueule d'effroi, je fuis, j'évite l'ivresse des interdits. Chapitre de l'audace, je quitte alors le bruit des classes, dans les vapeurs de ma guitare, je m'éloigne des rimes du miroir, je fuis la concordance des temps, je me balade sur mon cahier. Je n'hésiterai plus un instant à respirer l'air étouffé. J'ose, j'ose. Sur un coup de tête, une gueule de joie, j'écris, je chante à l'encre de mes envies. Sur un coup de tête, une gueule d'effroi, je fuis, j'évite l'ivresse des indécis.
C'était Maëlle sur un coup de tête. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, en tout cas, pendant cette musique, croyez-moi, j'étais en train de danser. Ça me fait bouger la tête, ça me fait danser. Moi, je l'adore, Maëlle. Hein, elle a une super belle voix. Et puis, qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Alors, il n'y a aucune excuse pour pas écouter son album, si vous avez aimé, puisque son album est éponyme, c'est Maëlle. Tout simplement, l'album Maëlle par Maëlle. Il est sorti il y a quelques mois, en fin 2019, et c'est une vraie merveille. Et là, on a écouté sur un coup de tête. Alors là, je suis bien. J'ai écouté Maëlle, je suis content. C'est donc le moment où je vais prendre mon téléphone et où je vais appeler Quentin pour lui poser quelques questions du questionnaire. Je le rappelle, que faisait Bernard Pivot dans Bouillon de Culture. On fait sonner le téléphone chez Quentin.
Allô ?
Salut Quentin, comment vas-tu, dis-moi ?
Ça va super et toi ?
Et moi, ça va super. Quand j'entends ta voix, je suis toujours super content.
Et moi aussi.
Je voudrais te demander si tu es prêt à répondre à mon questionnaire.
Yes, carrément, je suis
T'es prêt,
prêt.
Ok, on commence direct. Quentin, quel est ton mot préféré?
Alors, mon mot préféré, je dirais espoir, je pense.
Ok, d'accord, ouais. Ça, c'est, j'aime bien, ça c'est cool.
Ouais, c'est un mot qui parle à tout le monde, je pense, yes. Et puis c'est important surtout.
Ouais, j'aime bien. Et du coup, le mot que tu détestes?
Le mot que je déteste, réalité, c'est triste à dire, mais...
Ah, tu préfères le rêve, en fait.
Ouais, c'est okay. Carrément, ouais.
Ouais, classe. Un bruit que tu aimes bien?
Un bruit que j'aime bien, Une voiture qui passe, une voiture rapide, tu vois, une voiture de course qui passe.
Ok, bah tu vois, la semaine dernière, Arthur aimait pas le bruit du klaxon, toi t'aimes le bruit de la voiture.
La voiture, ouais.
Ça se regroupe plutôt pas mal. Le bruit que tu détestes, à l'inverse.
Les assiettes qui s'empilent, trop fortes.
D'accord, quand tu les sors du lave-vaisselle, tu les empiles dans le placard.
Ouais, okay. Tu fais beaucoup de bruit, ça résonne énormément, j'aime
okay, pas. Ok, d'accord. Ton gros mot préféré?
Putain,
ouais, c'est vrai que ça, on l'utilise pas mal, ça.
J'utilise pas mal et c'est souvent dans une situation pas à notre avantage.
Est-ce que quand t'empiles les assiettes, ça t'énerve, tu fais putain?
Ouais, carrément.
Voilà, donc carrément, en fait, tout est lié. Ouais.
Tout est lié, c'est ça.
Alors, si tu devais créer un nouveau billet de banque, tu choisirais qui pour l'illustrer?
Je pense que je choisirais un truc fun, genre Krusty le clown dans les Simpsons.
Ah ouais, Krusty le clown. Ah ouais, carrément. Ouais. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais Homer. Oh, Homer, ce serait super.
Homer, c'est un truc marrant, avec un peu plus de fun.
Homer, on le mettrait sur des billets de 500.
Ouais, carrément, voilà. Ouais, carrément, direct. Carrément.
Quand t'as un métier que t'aimerais pas faire?
Un métier que j'aimerais pas faire, la mise en rayon le matin, parce que j'aime beaucoup dormir.
Ah du coup, t'es pas du matin, toi?
Non, pas de trop, non.
Ouais, ça, j'en sais quelque chose. Quentin, l'animal dans lequel t'aimerais être réincarné? C'est la dernière question. Okay. Réponds bien, attention, c'est la dernière.
Il y en a plusieurs, hein. Je t'avoue qu'il y en a plusieurs. Je pense quand même à un oiseau, je pense que voler, ça doit être assez
exceptionnel. Ok, mais du coup, plutôt un aigle, plutôt un petit pivert
Ouais, un aigle,
un truc classe quand même.
C'est classe en plus, l'aigle.
Ouais, un truc classe. Ok. Et ben, je te remercie pour tes belles réponses. Qu'est-ce que tu vas faire après cet appel?
Et ben, je pense que je vais aller faire de la musique.
Et oui, parce que Quentin est un très grand musicien.
Et oui.
De son nom Quarz. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait sur YouTube, Instagram, Facebook. Voilà, petite promo, on en profite. Bon bah écoute, je te prends pas plus longtemps. Je te souhaite une bonne composition juste après. Et puis, je te dis à la prochaine, Quentin.
Carrément, à la prochaine.
À la prochaine, salut.
Allez, bisous.
Et ce qui est assez marrant, c'est que Quentin, pour la petite histoire, eh ben, c'est mon colocataire, donc je vis avec lui à l'année, et quand il nous parle du métier qu'il aimerait pas faire, à savoir la mise en rayon le matin, eh bien, en septembre, c'était normalement ce qu'il devait faire comme job étudiant, et puis finalement, eh ben, ça s'est pas fait, on comprend mieux, parce qu'en fait, il a pas du tout envie de le faire. Mais bon, comme on l'a entendu, il fait de la musique, et ça lui permet, du coup, en job étudiant, de faire pas mal de scènes. Et donc, je vous invite, effectivement, à aller voir un Quarz, Q-K-U-A-R-Z, et franchement, c'est cool ce qu'il fait. Alors là, on était énergique, on a bien parlé avec Quentin, on a écouté juste avant Maël, c'était super. On va donc se reposer tranquillement, vous avez compris je pense, c'est l'heure de la chronique d'Emily avec sa chronique poétique et un peu de relaxation. Alors comme la semaine dernière, on s'assoit confortablement et puis on écoute bien ce que nous dit Emily et on n'hésite pas à faire travailler son imagination et à vraiment partir, à s'évader, à voyager. Imaginez un endroit où vous êtes bien, une forêt, l'océan, etc. Et puis partez au son de la voix d'Emily.
Radio Libellule.
Poésie en arabesque ouvre relation. L'affection est notre habitat commun. On la respire sans la sentir. L'affection parcourt chaque petite partie de notre corps. On la respire sans la sentir. Chaque petite partie de notre corps rencontre l'affection. Comme une présence chaude, elle dessine notre enveloppe cotonneuse. Chaque petite partie de notre corps rencontre l'affection. Comme une présence chaude, elle dessine notre enveloppe cotonneuse. Sans bruit, elle dessine. À ses côtés, on s'envole tout entier de la tête aux pieds. L'enveloppe cotonneuse chatouille. L'enveloppe cotonneuse apostrophe. Chaque petite partie de notre corps. Dans son sillage, on prend l'allure d'une écume de nuages. Dans son sillage, on prend l'allure d'une écume de nuages. L'affection est notre habitat commun. On la respire sans la sentir. Elle parcourt chaque petite partie de notre corps. Comme une présence chaude, elle dessine notre enveloppe cotonneuse. À ses côtés, on s'envole tout entier, de la tête aux pieds. L'enveloppe cotonneuse chatouille. L'enveloppe cotonneuse caresse chaque petite partie de notre corps. Dans son sillage, on prend l'allure d'une écume de nuages. Dans son sillage, on prend l'allure d'une écume de nuages. L'affection est notre habitat commun. On la respire sans la sentir. À ses côtés, on s'envole tout entier, de la tête aux pieds. À ses côtés, on s'envole tout entier, de la tête aux pieds.
Ah, cette enveloppe cotonneuse, je l'ai vraiment ressentie. Est-ce que vous l'avez ressentie, vous, chez vous ? Bon, je pense que oui, on s'est vraiment senti plongé et personnellement, moi, je me suis vraiment évadé. J'espère que ça vous a fait la même chose. Alors, comme d'habitude, après une belle petite séance poétique et de relaxation, il faut qu'on reprenne des forces puisqu'on entre dans la dernière partie de l'émission et il faut qu'on soit tous bien à fond pour rire parce que juste après, il y aura un sketch surprise qui, je pense, vous fera rire. Enfin, j'espère. Du coup, une petite pub qui va nous redonner un petit peu d'énergie.
Il ne faut jamais rechigner à secouer une bouteille d'Orangina afin de bien mélanger la pulpe d'orange. Orangina à la pulpe d'orange. Orangina.
Et c'est bon, on a pris tous ensemble un bon petit verre d'Orangina. On est donc bien énergique pour cette fin d'émission et surtout pour rire, puisque je vous ai préparé un petit sketch. Mais qui d'autre aurait pu nous faire rire en cette fin d'émission si ce n'est Raymond Devos ? Raymond Devos, on le sait, il fait rire tout le monde, il est excellent. Et après avoir bu un petit verre d'Orangina, on est chaud pour rire. C'est parti, c'est un sketch qui date de 1979.
Je voudrais quand même vous dire, parce qu'il y a beaucoup de mimes, mes camarades, parce que j'en ai fait beaucoup, et puis c'est des gens qui ont un talent fou, c'est vrai, et puis je les adore. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à s'oublier pour être un autre, etc. Bon. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quelquefois on dit qu'un artiste sait tout faire. On dit, il sait tout faire. J'ai entendu ça, moi, il sait tout faire. Un mime sait tout faire. Mais un mime ne peut pas tout faire. Un jour, je devais mimer quelqu'un qui n'a rien à faire. Eh bien, j'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire, mais ça ne peut pas se faire. Et de plus, je ne pouvais pas le dire que je ne pouvais pas le faire, parce que le personnage qui n'avait rien à faire, en plus, n'avait rien à dire. Et le directeur m'avait bien spécifié, il m'avait dit surtout pensez bien à ce que vous avez à faire, c'est-à-dire en fait pensez à rien. Et il avait ajouté surtout ne le dites pas. Et je lui avais donné ma parole de mime que je ne dirais rien. Alors, je suis entré sur scène comme ça, et j'ai commencé à ne rien faire. Sans rien dire. Ça a l'air de rien, mais il faut le faire. Il ne suffit pas de le dire. Et paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens disaient « Qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public n'est pas fou. Ils voyaient bien que je faisais quelque chose, mais comme c'était rien, ils se demandaient ce que j'étais venu faire. Et les critiques dans la salle voyaient bien que je ne faisais rien et que je le faisais bien. Et ils s'attendaient à plus. Et moi qui déjà ne faisais rien, je ne pouvais pas faire moins. Les gens dans la salle, qui ne voyaient rien, ils ont commencé à trouver à redire. Et on pourrait au moins faire un geste. Avoir un bon mouvement. Alors ce que voyant, moi j'ai fait le seul geste que pouvait se permettre quelqu'un qui n'a rien à faire, sans qu'on dise il en fait trop. J'ai fait un geste d'impuissance. J'ai fait... Alors les gens dans la salle, qu'est-ce qu'il dit? Alors là j'ai rompu le silence, j'ai dit mesdames et messieurs, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là? Le directeur, rideau! Non seulement je paye un mime à ne rien faire et il le fait pas, mais en plus, il ne tient pas sa parole, il parle. Il m'a dit, monsieur, vous n'êtes même pas bon à rien. Alors, le lendemain dans la presse, quand on dit les critiques, ben, comme j'avais rien fait, ils n'ont rien dit, mais en bien.
Et c'était donc Raymond DeVos avec son sketch sur ben, « On peut le dire, mais on peut pas le faire ». Et il le fait toujours extrêmement bien et ça nous fait toujours autant rire. Alors on arrive sur la fin de l'émission déjà. Oh, je suis triste de vous quitter, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on sera là mercredi prochain. Mais attention, c'est pas encore complètement fini. Il reste à lire la fable. Alors, cette semaine, j'ai choisi de vous lire toujours une fable de La Fontaine. Ça s'appelle « Le mulet se vantant de sa généalogie ». Le mulet d'un prélat se piquait de noblesse et ne parlait incessamment que de sa mère la jument, dont il comptait maintes prouesses. Elle avait fait ceci, puis avait été là. Son fils prétendait pour cela qu'on le dût mettre dans l'histoire. Il eût cru s'abaisser servant un médecin. Étant devenu vieux, on le mit au moulin. Son père, l'âne, alors lui revint en mémoire. Quand le malheur ne serait bon qu'à mettre un sceau à la raison, toujours serait-ce à juste cause qu'on le dit bon à quelque chose. C'était le mulet se vantant de sa généalogie par Jean de La Fontaine. Eh bien, je vais vous poser maintenant l'énigme de fin d'émission. Alors celle-là, toujours en rapport avec le 1er avril. Donc voici l'énigme, elle est très simple et en même temps très compliquée. Attention, c'est une petite charade. Mon premier est un poisson, mon deuxième est un poisson, mon troisième est un poisson, mon tout est une personne de la famille. Donc, vous avez remarqué, j'ai trouvé une énigme en rapport avec le poisson d'avril. C'est déjà la fin de cette émission, mais comme je vous l'ai dit, mercredi prochain, on sera toujours là. D'ici là, j'espère que vous allez faire des petites blagues poisson d'avril. Faites des blagues, riez entre vous, confectionnez des beaux petits poissons d'avril. Faites-en vraiment des belles créations. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de rire, de s'amuser et surtout de garder le sourire. Et on se dit donc à mercredi prochain. On se quitte sur une musique de Dalida et Alain Delon. Ça s'appelle Paroles et Paroles. Ça date de 1973. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Radio Libellule.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
C'est fini. temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Yeah.